Le mag sur ses deux ailes.
Eh bien, chose promise, chose due, il est 11h17, ça c'est clair, hein, c'est, ça arrive toute la journée.
Toujours.
Hein, et il y a des 60 secondes, ça fait une minute, etc., etc. Oui, on disait, Théo, qu'on va passer de la photo à un autre art.
Au théâtre.
Je ne sais pas s'il est noble ou plus noble, non, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Hein.
Non,
c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, on va évoquer effectivement le théâtre, et ce, en compagnie de cette troupe qui a fêté ses 20 ans d'existence l'année dernière, je crois, à savoir le Théâtre des Minuits. C'est un lieu dédié, vous allez le voir très rapidement, à la création. Il est situé à la Neuville-sur-Essonne, c'est dans le Loiret. Hein.
Dans le Loiret.
Dans le Pitivré, hein. Dans le nord du département, je crois. Voilà. Et dans le cadre de leur programmation 2019, le Théâtre de Minuit propose durant le mois de mars cette pièce de théâtre, une Algérie 1830-1954. Paradoxe, peut-être, ce fut le premier spectacle créé dans la grange du Théâtre des Minuits. Vous allez voir pourquoi on parle de la grange, parce que c'est un lieu où il n'y a pas seulement qu'une salle. Et avant de rejouer ce spectacle chez eux du 16 au 24 mars prochain, ils seront en avant-première vendredi prochain, du côté du hangar de Chalette-sur-Loing à 20h30. Alors bien sûr, on va décliner en long, en large, à peu près un siècle et demi d'histoire. On a 4 heures.
C'est ça.
Non, pour effectivement mettre en perspective ce spectacle, eh bien, nous avons à nos côtés Cécile du Théâtre des Minuits. Bonjour.
Bonjour.
Elle sort que la nuit en général, hein, parce que c'est comme les... Voilà, c'est ça.
Tout à fait.
Et est accompagnée d'Emmanuel Meneau, programmateur de la saison culturelle au hangar, entre autres.
Entre autres, oui.
Entre autres. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bon, vous, je disais, à chaque fois que Cécile vient ici, c'est pas souvent, mais elle nous amène le soleil.
Oui. Mais peut-être que Cécile est le soleil.
Qui sait. Je voulais, Cécile, avant qu'on développe ce un siècle et demi d'histoire en 4 heures, peut-être faire 3 heures, on va voir, on va s'arranger. Peut-être qu'on remette en perspective ce lieu qui est le Théâtre des Minuits, juste rapidement un peu le concept, parce que en fait l'originalité tant du projet, de la création, qui d'ailleurs déborde parfois du théâtre, hein. C'est un lieu, ce qui est symptomatique dans le Théâtre des Minuits, c'est que c'est d'abord du théâtre, mais c'est aussi un lieu.
Tout à fait. En fait, la troupe s'est vraiment installée dans ce lieu pour permettre à la création de, sur toutes ses formes, de vivre. Le Théâtre des Minuits, c'est 1 hectare de jardin.
Seulement.
Voilà, seulement.
Un petit théâtre.
Alors, et à l'origine, c'était une prairie, en fait. C'était une ancienne pâture qui servait à rouir le chanvre. Et nous, on en a fait un jardin contemporain où, du coup, la nature vibrante exprime sa créativité au quotidien. Donc, c'est très beau à voir, effectivement.
Ils sont tous châtelains et châtelaines aussi, maintenant.
Et effectivement, nous sommes aussi châtelains et châtelaines. On dirait pas comme ça, mais nous avons les ruines d'un château 13e et 15e siècle. Et ce château est en cours de restauration. Donc, tous les étés, on organise des chantiers avec l'Union Rempart. Des chantiers de bénévoles qui viennent pendant un mois pour nous aider à restaurer le château, à le remonter intégralement pour plus que les pierres tombent et pour qu'un jour les spectateurs puissent y entrer. Parce qu'effectivement, le lieu est entièrement dédié à la création et aussi entièrement dédié aux spectateurs. On aimerait qu'ils puissent tout voir.
Alors, il est ouvert l'été, je crois, à partir de mai, le jardin, entre autres.
Tout à fait, tous les dimanches de 14h à 18h.
Donc, si vous voyez des gens marcher avec leur texte, ce n'est que la troupe.
La troupe qui...
Minuit.
Et puis, il y a une magnifique roseraie dans
roseraie,
ce jardin.
Voilà. Et puis, est-ce que, bon, ça m'étonne pas parce qu'il y a quelques roses quand même, quelques rosiéristes aussi dans le coin.
Voilà, c'est voilà. Ça.
Et puis, je voulais qu'on mette aussi en perspective, quand on parle de cet environnement, il y a aussi un point important, c'est la grange.
Tout à fait, la grange, c'est notre salle de spectacle en fait. C'est le lieu en dur et à l'intérieur et au sec qui nous permet d'accueillir toutes les scénographies possibles parce que, effectivement, le but c'est qu'on puisse soit accueillir un spectacle en bifrontal, c'est-à-dire où les spectateurs sont de part et d'autre de la scène, ou en frontal, on peut accueillir du cirque, de l'opéra. Le but c'est vraiment un espace vide qui permet que la création puisse s'exprimer sous toutes ses formes. Et puis bah tu l'as vu Emmanuel, la scénographie d'une Algérie est très très particulière.
Voilà, c'est ça l'intérêt de leur lieu, c'est que bon, c'est 4 murs et un toit, donc les seules limites organisationnelles à l'intérieur du lieu, c'est je dirais l'espace qu'il y a entre les murs, et donc ça leur permet effectivement de jouer dans n'importe quel sens.
Bah. Je trouvais que c'était important de démarrer comme ça parce que c'est un projet qui est assez remarquable, tant dans la production artistique que effectivement dans la préservation, de la mise en valeur de cet environnement et de ce bâti, de ce lieu. Donc voilà, c'est un Hein, c'est pas seulement des gens qui font que du théâtre, encore que, c'est pas mal aussi. Hein.
Oui, c'est une sorte d'utopie,
d'utopie,
on va dire.
Voilà. Alors, donc 20 ans d'existence. Bon, on doit aussi mettre en perspective qu'il n'y a pas seulement que des représentations, il y a aussi des activités qui sont de près comme de loin liées au monde des arts et aussi à faire en sorte que certains, peut-être demain, deviennent des grands hommes et femmes de théâtre, de cirque et autres.
Tout à fait, on a des activités très très diversifiées. Donc on est une troupe, on est 10 personnes, donc ça permet d'avoir...
Sur un hectare. Hein.
Voilà. Okay. Et pas que, en fait. Effectivement, on vous a beaucoup parlé de notre théâtre, mais la troupe va partout où on l'invite à jouer. Donc typiquement, on a été invité à jouer à Chalette-sur-Loing le 1er mars, mais effectivement, on peut faire une tournée en Roumanie, on peut partir jusqu'au Japon. Voilà, nous, on aime être le lien entre ici et ailleurs. Notre troupe, elle voyage, mais on accueille aussi des spectacles du monde entier dans notre théâtre. L'année dernière, on a accueilli une compagnie de marionnettistes japonais, par exemple. Donc on aime être le lien entre notre village, parce que la Neuville-sur-Essonne, c'est un village de 400 habitants. Hein. C'était un gros pari de s'installer là, quand même.
J'imagine, il double presque la population avec les gens d'un peu partout du monde pour rénover
tout
le château.
Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on aime être le lien entre ici et ailleurs, et on aime aller ailleurs. On aime que ailleurs viennent chez nous. On aime ça.
Bon, disons, par exemple, il y a aussi avec le théâtre des minuits, je dirais, un compagnonnage entre les minuits et Chalette-sur-Loing là, qui se met en place petit à petit, puisque il y a un projet de grand spectacle participatif avec toute la population chalettoise qui voudra bien s'y mêler. C'est pour l'horizon. On va dire début 2020, voilà. Hein, voilà. Mais je serai, je pense, très prochainement amené à venir en reparler sur cette antenne.
Très bien. Donc 2020, la gestation, c'est 9 mois en règle générale.
C'est ça.
On croit qu'on peut être aussi né prématuré.
Oui, c'est ça.
9 mois. Donc 2020, voilà. On suivra avec attention cette petite chose. Non, ce que je voulais dire aussi, pour refermer le chapitre un peu sur le théâtre des minuits, très rapidement, c'est que c'est aussi un lieu où on apprend aussi le théâtre.
Tout à fait.
Il y a des cours, il y a des...
Tout à fait, on donne des cours de théâtre hebdomadaires. Donc tous les jeudis, 19h à 21h, on donne des cours de théâtre ouverts à tous à partir de 12 ans. Et on donne des stages de théâtre pour enfants pendant les vacances d'automne, de printemps et
en avril, d'été. Là, par exemple, il va y en avoir, je crois.
Oui, du 8 au 11 avril, on a un stage de théâtre pour enfants. C'est 6-12 ans.
6-12 ans.
Voilà.
Donc, si votre petit enfant va au théâtre, il va vous dire « Non, je ne vais pas au théâtre, je vais au château, je vais au jardin, je vais à la grange. » D'accord. Alors, on va venir à l'objet du délit. Non, je plaisante. Ce qui est le factuel, c'est-à-dire, je disais, est-ce que c'est la reprise, justement, de la programmation 2019, cette pièce de théâtre qui va être jouée vendredi prochain du côté du hangar de Chalette et puis ensuite, pendant quelques jours chez vous, là, dans vos lieux, en vos lieux. C'est le lancement de la saison, non?
Non, pas du tout. La saison, on la lance en octobre, tous les ans d'ordinaire. Mais c'est vrai que tous les ans, en mars, dans notre saison, avec les minuits, on joue un de nos spectacles. Parce qu'on accueille d'autres spectacles. Mais en mars, c'est vraiment notre mois. C'est le mois où on joue ce qui est à notre répertoire. Et comme le service culturel de la ville de Chalette nous a commandé une Algérie pour le début du mois de mars, on a fait, allez, on va le jouer chez nous tant qu'à faire.
Pourquoi pas? Alors, ce qui est assez étonnant, je disais paradoxe peut-être, je ne sais pas si c'est un paradoxe. En tout cas, c'est une des pièces que vous avez créées il y a 10 ans dans votre lieu qui était La Grange. Pourquoi avoir décidé de continuer à la jouer, cette pièce, ou de la rejouer plutôt?
De la jouer ou de la rejouer, eh bien écoutez, c'est un très grand plaisir et une très grande émotion de reprendre un spectacle qu'on a créé 11 ou 12 ans avant. Je sais que lorsqu'on a repris les répétitions, on s'est dit comment ce spectacle va être reçu 12 ans après. La réception ne sera forcément pas la même, d'une part parce que 2015 est passé par là, les événements de Charlie Hebdo sont passés par là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, si je puis dire, et du coup, rien que le fait de rejouer ce spectacle qui était un sujet très fort quand même, c'était très émouvant et de reprendre ça, très intéressant. Aussi, la distribution a beaucoup changé. Beaucoup de personnes qui ont créé le spectacle ne sont plus dans la troupe actuellement et beaucoup de personnes sont rentrées dans la troupe après. Donc, Enfin voilà, c'est rebattre les cartes, c'est remettre le travail sur les l'ouvrage sur l'établi, pardon, et du coup c'est très intéressant de reprendre ça, et c'est un spectacle très très beau et qui devrait être joué tout le temps.
Alors on va rappeler peut-être rien que le titre déjà.
Donc c'est Une Algérie 1830-1954.
Voilà, donc l'idée c'est de mettre en perspective une fresque historique qui a été dès 1830 une colonisation, celle des Français, sur cette partie du globe. Mais est-ce qu'on est juste sur l'aspect purement historique et histoire de ce qu'a été la colonisation, ou est-ce qu'on est dans un spectre un peu plus large que ça à travers cette pièce ?
Dans cette pièce, on a vraiment parlé de la grande et de la petite histoire. Effectivement, on voulait parler de la période coloniale en Algérie. Donc, effectivement, le spectacle commence par une anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que pourquoi la France a débarqué en Algérie en 1827? Parce que l'histoire veut que le dé d'Alger ait donné un coup d'éventail au consul de France.
Le dé d'Alger, pour ceux qui nous écoutent, c'était une autorité, c'est ça?
Oui, un haut dirigeant. De l'Algérie, hein. Et du coup, ce coup d'éventail serait le point de départ de l'invasion française pour coloniser l'Algérie. Il y a 7 témoins oculaires de cette scène, 7 versions différentes de raconter cette scène. Donc c'était notre point de départ, c'est ce qui nous a fait sourire dans comment raconter une histoire, des histoires. Et forcément, la fiction et la réalité sont extrêmement mêlées. Tous nos personnages sont inspirés de faits réels, si je puis parler comme ça. Mais voilà, c'était ça qui nous a fait vibrer.
Voilà, quand le réel s'entrechoque ou avec le passé ou avec parfois ce qu'on disait, hein, cette version différente, donc effectivement le passé.
Essayer, ouais, de reconstituer un peu ce passé, de donner à voir un peu de tous les, justement tous les angles et tout ce qui a pu être dit et tout ce qui a pu être vécu.
C'est le grand intérêt de cette pièce. Moi, quand j'ai lu le texte, j'ai vu quelques extraits ensuite. Quand j'ai lu le texte, la première chose que j'ai vue, c'est que par le biais de la poésie, la parole était donnée à tout le monde, à toutes les parties, et dans un souci de ne pas reconfronter l'une à l'autre les parties, mais en leur disant, bon ben voilà, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, parce que le spectacle s'arrête juste avant la guerre, mais parce que la guerre n'explique rien, en fait, tout s'est joué avant, hein. Et donc c'était de dire, bon voilà, ok, ça s'est passé, on n'effacera pas l'histoire, mais est-ce qu'on peut pas, partant de ce que l'on sait, est-ce qu'on peut pas se remettre à dialoguer intelligemment? Il y a vraiment dans ce spectacle, et c'est ce qui m'a moi beaucoup touché, eu un esprit de paix, de fraternisation, de dire bon, voilà, entre guillemets, on a merdé avant, et sévèrement en l'occurrence, on peut peut-être quand même reconstruire du positif. Et puis la guerre d'Algérie, c'était il y a, je vais pas dire de bêtises, un peu plus de 50 ans maintenant.
62,
voilà. Voilà. Le temps a fait son affaire. C'est peut-être maintenant venu le temps de dire bon. Et si on reconstruisait quelque chose de positif dans le dialogue, dans l'acceptation de l'autre, des différences, etc.
C'est assez étonnant comme pièce, parce qu'on va le voir aussi dans la façon dont elle est jouée, dans les artifices qui sont utilisés, dans les décors, et y compris dans les éléments sonores, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai un livre d'images que l'on feuillette, un spectacle qui donne à voir les choses en face. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans le jugement. On est on relate une chronologie historique d'un contexte particulier, la colonisation française dans cette partie du monde, l'Afrique du Nord. Et l'idée, c'est qu'au fil de cette pièce, on découvre un peu ce qu'ont été les rapports, les situations, c'est ça, en fait.
Tout à fait, on donne vraiment à voir les choses, on n'explique rien, on ne juge rien, on ne donne pas de leçons.
On relate des faits.
C'est ça, on raconte une histoire. En fait, on est venu au théâtre pour raconter une histoire, pour voir des personnages, pour rire, pour pleurer, pour voir des beaux costumes, pour voir des belles lumières, pour écouter de la musique, pour passer un bon moment aussi ensemble et voir un beau spectacle. Bon, et il s'avère que le contexte, c'est la période coloniale en Algérie. Mais ça reste un spectacle de théâtre, avant tout.
Alors, le curseur, il est mis en 1827. Je disais, juste un peu avant, justement, l'arrivée de la colonisation française. Donc, le dé d'Alger donne un coup d'éventail au consul de France. L'armée française envahit l'Algérie. Le spectacle se termine avec les premiers poseurs de bombes de la Toussaint Rouge en 1954. Je vais faire un résumé très rapide. Mais l'idée, c'est qu'on va, on part de ce... Le point A, c'est 1827, oui, c'est ça, et le point d'arrivée, c'est 1954, et là, on a toute une série de cette fresque qui est représentée comment ? Par des actes, par des paroles, par des personnages ?
Alors, tout à fait, en fait, la pièce est découpée en trois actes.
Et, trois actes, quand même ?
Ouais, tout à fait, mais... La scénographie est très importante à expliquer. Manu l'a vu.
Voilà. Oui, mais en même temps, je veux pas déplorer la surprise qui sera faite au spectateur.
Ah oui.
Elle est très complexe. Ce dispositif, il est très complexe.
C'est un beau challenge.
C'est une addition de choses très très simples, mais qui permettent de créer des espaces extrêmement différent, c'est-à-dire que on n'est jamais au même endroit. Je dirais que le décor change sur un claquement de doigts. C'est très astucieux. Ça donne une dimension esthétique à la pièce qui est extrêmement agréable.
Un jeu de lumière.
Oui, oui. Oh, simplissime.
Mais ça marche.
Voilà.
C'est Arturo Brachetti, en fait, effectivement, parce que on doit jouer 90 personnages sur scène pendant 2 heures et on n'est que 10, on n'est pas 90 sur scène.
Voilà.
Donc il faut qu'on se change derrière les rideaux en un clin d'œil effectivement on a un jeu de 11 tentures qui se lèvent et se baissent pour faire apparaître des tableaux, des personnages, les scènes et les jouer. Et effectivement c'est assez impressionnant. Moi, j'en parle parce que je le connais de l'intérieur, ce spectacle, mais c'est vraiment très impressionnant. On est derrière un rideau, on est en train de terminer de mettre son costume, le rideau se lève, on joue notre scène, le rideau se referme et le rideau se lève sur quelqu'un d'autre au passage. Et
c'est peut-être ça aussi qui fait aussi peut-être la force, justement, vous le verrez quand vous irez, de cette pièce, c'est justement ce fait d'être jamais, parce que des fois il y a des pièces où bon, on peut un peu s'endormir, on entend des fois ronfler au fond.
Oui, non, mais là ce sera pas le cas, promis.
Alors il y a un élément, un matériau, mais on va peut-être pas le dire.
Oh si, on peut
le dire.
Ouais.
Parce que là aussi c'est une grande première pour
j'adore faire ça, moi. C'est la chance que j'ai de diriger ce lieu, le hangar, qui un peu comme la grange des minuits permet de faire à peu près ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de contrainte architecturale au-delà de la dimension entre les murs. On peut faire du théâtre sans qu'il y ait de scène. On peut faire du théâtre avec 2 tonnes de sable par terre, oui, bien sûr. Oui,
par exemple, avec 2 tonnes de sable. D'ailleurs, le marchand de sable passera à la fin et vous aurez le droit d'en partir avec...
Vous pouvez en souvenir, vous pouvez repartir avec un petit sachet de sable, si
voilà,
vous souhaitez.
Et puis éventuellement, si vous voulez continuer à vous amuser, on créera un petit jeu, hein, Emmanuel.
Voilà.
Avec un petit seau, des pelles. Voilà.
Alors, a priori, le sable, on s'en resserre justement pour le chantier de notre château de cet été. Hein, donc, parce que oui, on fait dans l'écologie chez nous et le sable, on voulait pas me le gâcher.
Ce sera recyclé de toute façon.
Tout ça pour dire que là, on peut pas rentrer trop dans le détail parce que l'idée, c'est effectivement que celles et ceux qui nous écoutent, ils aillent voir ce spectacle. Mais il y a quand même des éléments très forts. D'abord, l'histoire elle-même, le fait d'être dans des panneaux comme ça, avec 90 personnages en 10, hein, j'ai bien noté.
Tout à fait.
Donc, le ratio, c'est 9 à peu près pour 1. Donc, ah bah les cadences infernales, non, je plaisante.
Il est figurant, hein, mais...
Il est figurant, voilà, et puis le matériau qui dénote un peu, qui est un peu inhabituel.
Après, c'est... le sable en Algérie, pour un Français métropolitain, c'est peut-être un peu une image d'Épinal, mais c'est vrai que ça, c'est, Algérie, on pense au désert, donc oui, je pense que la matière sable, elle était juste évidente.
Mais on a joué sur les images d'Épinal, on a joué sur l'orientalisme, on a, parce que effectivement, toutes nos archives étaient françaises, nous ne sommes pas arabophones, quand nous avons dû faire des recherches historiques, nous sommes allés du côté des archives françaises. Et justement, il y a, si vous voulez, je peux vous lire un extrait du spectacle, qui est un texte inspiré d'un carnet de voyage d'Eugène Fromentin, Une année dans le Sahel. Et c'est ce qui nous a inspiré la scénographie du spectacle, ce qui nous a inspiré la lumière du spectacle, le sable, etc. Parce que effectivement, il parle d'image d'Épinal et il parle d'orientalisme. C'est le personnage d'un peintre qui lit un extrait d'Une année dans le Sahel d'Eugène Fromentin. Voilà maintenant un an que je suis ici. L'Orient n'est que promesse. D'immenses horizons inconnus et nouveaux s'offrent à nous. Je le regarde, ce pays, tout fait de poudre et de blanc, dessiné en largeur plus qu'en hauteur, très net. C'est le pays par excellence du grand, du clair et de l'immobile, des terrains enflammés sous un ciel bleu. Pas d'ombre mobile ici, car le ciel est sans nuages.
On y est.
Voilà.
On y est. Bon, eh ben oui, ça va être très sympa. Alors en plus, on doit aussi expliquer que on a aussi. Alors je ne sais pas comment on classifie ça dans le théâtre. Parfois, il y a des musiques qui apparaissent, etc., etc. Là, on a en plus un complément d'éléments sonores.
Oui, tout à fait. On est accompagné en contexte, direct. Hein, oui. On est accompagné en direct par du violon et de l'oud, voilà.
Ça c'est un peu la marque de fabrique des minuits, ça. Les musiques, ouais. Les musiques sont elles aussi habitées par des êtres humains. C'est pas des bandes son qui sont.
C'est impossible. C'est inconcevable.
Ils savent pas le faire. Les musiciens sont sur scène.
Et puis on a besoin d'une musique sur mesure pour notre spectacle. Nos spectacles sont très organiques. Ce sont des écritures collectives et avec les comédiens à partir de ce qu'ils sont, à partir de ce qu'ils ont à donner sur le plateau. Si on rajoute du Michael, je dis des bêtises, hein, si on met du Michael Jackson en bande son, ça.
Voilà. Non, mais bon, je me souviens pour le cabaret, les musiciens sont sur scène, ils jouent même.
On les voit.
Et puis pour l'opéra jeune public, j'ai mangé le nom.
Le Prince Masqué.
Le Prince Masqué, merci. Pareil, les musiciens, le musicien, il y en a qu'un en l'occurrence, est sur scène. Voilà. Donc sur l'Algérie, les musiciens sont sur scène aussi.
Voilà, c'est... Très bien. Donc, on a essayé de planter un peu le décor. On vous a mis un peu en appétence.
On essaie.
Juste une petite question, parce que là, c'est important aussi le contexte, le cadre, etc., etc. On parlait quand même d'être dans une période qui était 1827 à 1954. On n'a pas dansé dans son armoire des vêtements qui datent de 1950 ou 1827. Comment justement on a réussi, est-ce qu'on a essayé d'être assez fidèle sur le fait d'avoir des habits qui correspondent à ces périodes-là, à cette époque-là ou pas?
Tout à fait, on a chez nous des personnes qui sont costumières, qui s'occupent des costumes parmi nous, et qui ont fait beaucoup de recherches iconographiques, et donc on a créé des costumes sur mesure pour chacun de nos personnages qui correspondent avec l'époque. Par exemple, on a le général de Gaulle qui fait partie des personnages qui sont représentés dans cette fresque.
Il a compris
comment mettre son costume, effectivement, et voilà. Et aussi, c'est un vrai tour de force parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins et qu'on est aussi pas mal de filles dans la troupe. Donc, il faut que pour qu'une femme interprète Clémenceau, croyez-moi, il y a du travail de postiche et de costume.
Et au niveau de la voix aussi.
Et au niveau de la voix, voilà, etc. Donc, c'est une vraie performance d'acteur et d'actrice de se métamorphoser parce que on joue Clémenceau et la scène d'après, on joue une mère kabyle. Voilà, on est sur.
C'est pas le même accent déjà.
C'est pas le même accent, c'est pas le même costume.
Et je peux vous dire que du coup, en coulisses, ça va vite. Ça va très très vite parce que changer comme ça de personnage de manière extrême, c'est. C'est des heures de répétition parce que ça on réussit pas du premier coup, hein, donc il faut intégrer des mécanismes et tout. C'est des choses qu'on voit pas quand on est spectateur, ça. Mais c'est vrai que c'est un des trucs les plus passionnants pour les acteurs, c'est que du coup on devient presque des sportifs de haut niveau où chaque milliseconde doit être exploité au mieux.
Superbe pièce, vraiment à aller voir. Je vous encourage toutes et tous, d'autant que le service culturel de la ville de Chalette, en plus, a prévu quelques petits agréments qui restent dans le contexte, c'est-à-dire qu'il y aura le parking à chameaux et à,
voilà.
et à dromadaire, il y aura thé vert à volonté. Et puis tout le monde finit autour d'un couscous, c'est ça?
On veut bien, nous, hein, on aura faim après.
J'ai lancé quelques idées, hein, Cécile, si, dans le cahier des charges.
J'ai quelques jours pour m'organiser, d'accord?
plus sérieusement, bon, c'est un super spectacle. Parce que c'est un spectacle, en fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas seulement une pièce de théâtre, c'est un spectacle, mais là, il y a quand même toute une série d'ingrédients qui font que. On va progressivement s'immerger très rapidement dans cet univers-là, se replonger dans une période historique que pour certains on ne connaissait pas. Et puis, je trouve que c'est assez intéressant, en plus d'avoir de remettre en perspective aussi l'histoire de ce qu'a été l'histoire de France, à travers parfois aussi le fait qu'on a été quand même des colonisateurs et que, en règle générale, quand on colonise un pays, c'est pas pour être gentil avec les gens, quoi.
C'est rare que ce soit le cas.
Et pourtant, parfois, pensent être pavés de bonnes intentions. Certains sont persuadés de bien faire.
Ils ne savent pas écrire, on va leur apprendre à écrire. Ils ne savent pas s'habiller, on va les aider à s'habiller.
C'est ça. Voilà.
Ils ne savent pas travailler, on va leur mettre des usines et on va les faire travailler.
Et c'est ça le plus terrible, en fait.
Voilà, on répète.
Je veux revenir là-dessus, c'est que la grande dimension de ce spectacle, c'est justement de tout faire pour réinstaurer un dialogue. Un dialogue de respect mutuel et de se dire et si on passait à autre chose, quoi.
On reste de grands humanistes.
Et puis parfois comprendre l'histoire, c'est peut-être se mettre dans une perspective de comprendre d'où on vient, où on va et qu'est-ce qui s'est passé à un moment et comment on peut effectivement, en s'appuyant sur l'histoire, ne pas reproduire.
Peut être utile à ça, oui, alors là, très bien, oui.
Voilà, ça c'est un dossier que je vous donne. Théo, quand il aura le temps, il fera une note de synthèse.
Vous avez 3 heures.
On répète, donc, cette pièce de théâtre, Une Algérie 1830-1954, c'est dès vendredi à partir de 20h30.
À 20h30 précise. C'est bien, parce que comme le spectacle est long, je voudrais pas qu'on démarre en retard.
Oui, ça dure 2 heures, et puis bon, le thé va refroidir, et puis.
Voilà, et puis si le couscous est trop cuit.
Et puis on aura faim.
Et puis ensuite, à l'issue de. D'ailleurs, on peut continuer à réserver, Emmanuel?
Ah, bien sûr, oui, la billetterie est ouverte dès lundi matin.
On paye pas en dinars, hein, rassurez-vous.
Non, on paye en euros. Okay. Même par téléphone, 02 38 93 17 96.
Voilà. Et puis, bien sûr, comme c'est toujours l'habitude au hangar, on peut continuer ensuite, à l'issue de la pièce, à discuter avec les uns et les autres.
Mais ça, tous les spectateurs seront chaleureusement invités, effectivement, à ouvrir le dialogue, bien sûr.
Très bien. Les artistes seront là pour discuter avec eux.
Voilà. Et puis ensuite, on poursuit chez vous, là, du 16 au 24?
Tout à fait. On joue le spectacle les samedis 16 et 23 mars à 20h30 et les dimanches 17 et 24 mars à 15h.
Ah, j'ai bien noté. Bon, et puis pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, ils tapent sur un moteur de recherche théâtre des minuit. Et puis pour le hangar, bon, tout le monde sait. Hein.
Voilà.
Et on a aussi une page Facebook et un compte Instagram. On est très réactif et on répond si on nous envoie des messages sur Facebook.
Merci Cécile d'être passée nous voir.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Qu'à minuit, donc ça fait un peu tard. Merci Emmanuel.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et vraiment, on vous invite à aller faire un tour du côté du hangar de Chalette dès vendredi prochain. Mmh. Et puis on reviendra sur. J'ai bien noté. Hein.
Oui. Ça, et bien, on sera. Je pense que Cécile ou quelqu'un d'autre dès minuit reviendra très prochainement à cette antenne.
Allez, merci à tous les deux. Bonne continuation et puis surtout qu'on s'en mêle pas, hein, sur le fait de jouer 10 personnages en un. Hein.
Promis, on va faire attention.
Allez, un petit peu de musique et puis juste après, on va recevoir nos derniers invités. On va parler d'autre chose, du coaching. Ça peut peut-être aider.